Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, haz otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, de 20h à 21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanque et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mouriras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanque et Philippe Goudard.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, deux joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme dix.
Quand, vidant les litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet, le bourgeois difforme tremble en uniforme sous son gros bonnet.
Nous vivons en somme, on est honnête homme, on n'est pas mouchard, on va le dimanche, avec Lise ou Blanche, dîner chez Richard.
On les mène à Pâques, barrière Saint-Jacques, souper au chat vert, on rigole, on aime, on boit, on a même un plat de dessert.
Nous vivons sans gîte, goût l'humain et vite, comme le moineau, au sein de nos caprices, jusqu'aux cantatrices, de chez Bobineau.
La vie est diverse, nous bravons l'averse, qui mouille nos peaux, toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau.
Nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Sous les ombres vertes, des rampes désertes, nous errons le soir. L'eau fuit, les toits fument, les lustres s'allument dans le château noir.
La terrasse est brune pendant que la lune l'emplit de clarté. D'ombre et de mensonges, nous faisons des songes pour la liberté.
You can hang me in a bottle like a cat. Let the crows pick me clean but for my hat. Hear the wailing of the baby, miss the footsteps of the dead.
Voilà, sur ce poème des Tuileries de Victor Hugo, hein, ce poème des drôles aux larges épaules, commence cette deuxième heure consacrée à Victor Hugo l'exilé qu'on enregistre aujourd'hui dans le collège Louise Michel à Ganges avec la classe de 4e de Madame Cuchard-Bouvier. C'est le résultat d'un travail de plusieurs séances de préparation. On va donc parler d'Hugo l'exilé parce que parler de tout Hugo, c'était un petit peu long. Hein. On a préparé cette émission donc avec Patrick Vendrin, Yves Flanque et moi-même. Et c'est Tom qui est à la technique. On est ici dans l'amphithéâtre du collège. On a laissé Hugo juste après son départ en exil à la fin de l'année 51.
Et donc Hugo, en passant par Bruxelles, est obligé donc de quitter la Belgique après avoir écrit le pamphlet contre Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte et se retrouve donc à Jersey. Et là, Jersey va démarrer pour lui l'exil, c'est-à-dire une vingtaine d'années qui seront les plus riches, de sa vie en termes de production littéraire. Et alors, curieusement, il va démarrer cet exil avec un petit peu de spiritisme, c'est-à-dire qu'il va avec un certain nombre de ses amis faire parler les tables et les faire tourner pour entrer en contact avec un certain nombre d'esprits, en recherchant, par exemple, l'esprit de sa fille Léopoldine. Mais il va rencontrer des gens aussi divers, semble-t-il, que Racine, Marat, Rousseau, André
Machiavel,
Platon,
Shakespeare.
Isaïe. Comme quoi, on devrait refaire des tables tournantes.
Oui, peut-être ça ferait du bien à tout le monde. Il y a aussi quelque chose qui est important dans cette production, c'est qu'il va consacrer ces années-là aussi à écrire Les Misérables. Hein. Les Misérables, c'est toute une histoire. C'est en fait, c'est un roman qu'il a commencé bien avant de partir en exil, dans les années 46. Je crois que c'est entre 43 et 46 qu'il commence à écrire ça, à une époque où il est déjà très installé, mais il est en passe de devenir un, comment dire, il fait presque partie des meubles. Et il y a toute une autre génération de jeunes auteurs comme Alexandre Dumas, Georges Sand, qui commencent à écrire des romans sociaux. Et lui, il avait déjà eu idée, un petit peu, pour des raisons, je dirais, presque de carrière, d'écrire un roman un petit peu sur la misère en France. Et puis, étant passé dans la grande moulinette dont on a parlé dans la précédente émission, dans cette espèce de choc qui est pour lui la trahison, d'une certaine manière, des idéaux républicains par Louis-Napoléon Bonaparte, il s'est rapproché, il a quand même été au contact hein, des émeutiers, il est allé sur les barricades, il a même négocié avec les insurgés, et donc il est allé voir de beaucoup plus près cette histoire, cette misère, et donc il réessaye une nouvelle fois d'écrire Les Misérables. Ça lui prend d'abord des mois pour relire sa première version. Il va essayer de renouveler complètement, non pas les personnages ni le scénario, mais sa façon d'écrire, quoi. Et ça va lui prendre des années. Je crois que je ne sais plus la date d'ailleurs de la parution des
1862.
62. Donc vous voyez, c'est un roman qu'il a trimballé dans sa vie pendant presque 14 ans. C'est énorme. Alors évidemment, il continue toujours d'écrire des vers. Vous savez, Hugo, c'est 300 000 vers, l'œuvre de Hugo. C'est énorme. C'est quelqu'un qui est, alors quand on dit spiritisme, c'est quelqu'un qui a tout fabriqué. Il a fabriqué sa propre religion. Hein. Quand il mourra, il dira « je veux être enterré dans le corbillard des pauvres sans aucune oraison d'aucune religion et je crois en Dieu ». Vous voyez, c'est étrange. Cet homme s'est fabriqué sa propre religion. Et puis, il écrit aussi, il essaye d'écrire des vers de toutes les manières. Hein. Il écrit, c'est la période où il écrit des châtiments hein, aussi. Il écrit...
Les contemplations,
dans lesquelles il va aussi reparler de ses grands drames personnels. Et puis, dans toute cette période-là aussi, il commence à se passionner avec ses fils, puisqu'on a dit que c'est toute la tribu Hugo qui s'est installée en Angleterre, enfin à Jersey, puis à Guernesey, puis à Jersey.
D'abord à Jersey.
On est toujours à Jersey, d'ailleurs. Et il commence à s'intéresser à la photographie. Hein, et vous avez vu certainement ces photos de Hugo debout sur son rocher. Enfin, il a un certain sens de la mise en scène. On dirait aujourd'hui, il a un certain sens de la com très, très, très poussé. Hein, et il va soigner son image. Voilà,
à tel point que Juliette Drouet va s'en plaindre. Elle va lui reprocher de le délaisser au profit de la photographie. Et alors, il écrit aussi la première série de La Légende des siècles, qui est aussi une œuvre épique, la plus grande œuvre épique de Victor Hugo, peut-être.
Peut-être, en tout cas, c'est une espèce de profusion de toute l'histoire de l'humanité. Et lui, d'ailleurs, ne se prend pas pour rien, puisqu'il considère qu'en gros, il fait aussi partie d'un de ces grands héros de l'humanité, avec Shakespeare notamment. Hein. Il a un certain sens de sa propre valeur.
Alors, voilà. Jersey, ça ne va pas durer, puisque Hugo va faire du Hugo, c'est-à-dire qu'il continue à protester contre la peine de mort. Et à l'occasion donc, de plusieurs affaires de condamnation de criminels à Jersey, mais aussi de la visite de Louis-Napoléon en Angleterre et de la reine d'Angleterre en France, il proteste, il écrit et il est obligé de quitter Jersey.
Voilà, il est viré de Jersey suite à la défense qu'il a prise d'un proscrit qui est dans l'île. Voilà, on va peut-être laisser Quentin maintenant nous lire l'échafaud.
C'était fini, splendide, étincelant, superbe, luisant sur la cité comme la faux sur l'herbe, large acier dont le jour faisait une clarté, ayant je ne sais quoi dans sa tranquillité de l'éblouissement du triangle mystique, pareil à la lueur au fond d'un temple antique. Le fatal couperet relevé, triomphé, il n'avait rien gardé de ce qu'il avait fait qu'une petite tache imperceptible et rouge. Le bourreau s'en était retourné dans son bouge, et la peine de mort remenant ses valets, juge, prêtre, était rentré en son palais avec son tombereau terrible dont la roue, silencieuse, laissait un sillon dans la boue qui se remplissait de sang sitôt qu'elle est passée. La foule disait « Bien, car l'homme est insensé, et ceux qui suivent tout et dont ses manières suivent même le char et même ses ornières. J'étais là, je pensais, le couchant empourpré, le grave hôtel de ville aux lunettes toujours prêts. Entre hier qu'il médite et demain qu'on rêve, l'échafaud achevé, resté seul sur la grève. La journée, en voyant expirer le soleil, le crépuscule vint, au fantôme pareil. Et j'étais toujours là. Je regardais la hache, la nuit, la ville immense et la petite tache.
L'avenir arrivera-t-il ? Qu'une société s'abîme au vent qui se dégène sur les hommes, cela s'est vu plus d'une fois. L'histoire est pleine de naufrages de peuples et d'empires. Mœurs, lois, religion, un beau jour, cet inconnu, l'ouragan, passe et emporte tout cela. Les civilisations de l'Inde, de la Chaldée, de la Perse, de la Syrie, de l'Égypte ont disparu l'une après l'autre. Pourquoi ? Nous l'ignorons. Quelles sont les causes de ces désastres ? Nous ne le savons pas. Ces sociétés auraient-elles pu être sauvées ? Y a-t-il de leur faute ? Se sont-elles obstinées dans quelque vice fatal qui les a perdues ? Quelle quantité de suicides y a-t-il dans ces morts terribles d'une nation et d'une race ? Question sans réponse. L'ombre couvre les civilisations condamnées. Elles faisaient eau puisqu'elles s'engloutissent. Nous n'avons rien de plus à dire. Et c'est avec une sorte d'effarement que nous regardons au fond de cette mer qu'on appelle le passé, derrière ces vagues colossales, les siècles, sombrer ces immenses navires, Babylone, Ninive, Tars, Thèbes, Rome, sous le souffle effrayant qui sort de toutes les bouches des ténèbres. Mais ténèbres là, clarté ici. Nous ignorons les maladies des civilisations antiques, nous connaissons les infirmités de la nôtre. Nous avons partout sur elles le droit de lumière. Nous contemplons ses beautés et nous mettons à nu ses difformités. Là où elle a mal, nous sondons. Et une fois la souffrance constatée, l'étude de la cause mène à la découverte du remède. Notre civilisation, œuvre de 20 siècles, est à la fois le monstre et le prodige. Elle vaut la peine d'être sauvée. Elle le sera. La soulager, c'est déjà beaucoup. L'éclairer, c'est encore quelque chose. Tous les travaux de la philosophie sociale moderne doivent converger vers ce but. Le penseur, aujourd'hui, a un grand devoir : ausculter la civilisation. Nous le répétons, cette auscultation encourage. Et c'est par cette insistance dans l'encouragement que nous voulons finir ces quelques pages, en tract austère d'un drame douloureux. Sous la mortalité sociale, on sent l'impérissabilité humaine. Pour avoir ça et là ces plaies, les cratères, et ces dartres, les solfatares, pour un volcan qui aboutit et qui jette son pus, le globe ne meurt pas. Des maladies de peuple ne tuent pas l'homme. Et néanmoins, quiconque suit la clinique sociale hoche la tête par instant. Les plus forts, les plus tendres, les plus logiques ont leurs heures de défaillance. L'avenir arrivera-t-il ? Il semble qu'on peut presque se faire cette question quand on voit tant d'ombres terribles. Sombre face à face des égoïstes et des misérables. Chez les égoïstes, les préjugés, les ténèbres de l'éducation riche, l'appétit croissant par l'enivrement, un étourdissement de prospérité qui assourdit, la crainte de souffrir, qui, dans quelques-uns, va jusqu'à l'aversion des souffrants. Une satisfaction implacable, le moi si enflé qu'il ferme l'âme. Chez les misérables, la convoitise, l'envie, la haine de voir les autres jouir, les profondes secousses de la bête humaine vers les assouvissements, les cœurs pleins de brume, la tristesse, le besoin, la fatalité, l'ignorance impure et simple. Faut-il continuer de lever les yeux vers le ciel ? Le point lumineux qu'on y distingue est-il de ceux qui s'éteignent ? L'idéal est effrayant à voir, ainsi perdu dans les profondeurs, petit, isolé, imperceptible, brillant mais entouré de toutes ces grandes menaces noires monstrueusement amoncelées autour de lui. Pourtant, pas plus en danger qu'une étoile dans les gueules des nuages.
Elle ne connaissait ni l'orgueil ni la haine. Elle aimait. Elle était pauvre, simple et sereine. Souvent, le pain qui manque abrégeait son repas. Elle avait 3 enfants, ce qui n'empêchait pas qu'elle ne se sentît mère de ceux qui souffrent. Les noirs événements qui dans la nuit s'engouffrent, le flux et reflux, les abîmes béantes, les nains sapant sans bruit l'ouvrage des géants, et tous nos malfaiteurs inconnus ou célèbres ne l'épouvantaient point. Derrière ces ténèbres, elle apercevait Dieu construisant l'avenir.
Elle sentait sa foi sans cesse rajeunir. De la liberté sainte, elle attisait les flammes. Elle s'inquiétait des enfants et des femmes. Elle disait, tendant la main aux travailleurs, « La vie est dure ici, mais sera bonne ailleurs. Avançons !» Elle allait, portant de l'un à l'autre, l'espérance. C'était une espèce d'apôtre que Dieu, sur cette terre où nous gémissons tous, avait fait mère et femme afin qu'il fût plus doux. L'esprit le plus farouche aimait sa voix sincère. Tendre, elle visitait, sous leur toit de misère, tous ceux que la famine ou la douleur abat. Les malades pensifs gisant sur leur grabat, la mansarde ou languit l'indigence morose. Quand par hasard moins pauvre, elle avait quelque chose, elle le partageait à tous comme une sœur. Quand elle n'avait rien, elle donnait son cœur.
Calme et grande, elle aimait comme le soleil brille. Le genre humain, pour elle, était une famille, comme ses 3 enfants étaient l'humanité. Elle criait progrès, amour, fraternité. Elle ouvrait aux souffrants des horizons sublimes.
Quand Pauline Roland eut commis tous ses crimes, le sauveur de l'Église et de l'ordre l'a pris et l'a mis en prison. Tranquille, elle sourit, car l'éponge de fiel plaît à ses lèvres pures. 5 mois, elle subit le contact des souillures, l'oubli, le rire affreux du vice, les bourreaux et le pain noir qu'on jette à travers les barreaux, édifiant la geôle aux mal habitués, enseignant la voleuse et la prostituée.
Ces 5 mois écoulés, un soldat, un bandit, dont le nom souilluré sévère, vint et lui dit « Soumettez-vous sur l'heure au règne qui commence. Reniez votre foi, sinon pas de clémence, l'embaissa. Choisissez, elle dit, l'embaissa. Le lendemain, la grille en frémissant grinça, et l'on vit arriver un fourgon cellulaire. Ah, voici l'embaissa, dit-elle sans colère. Elles étaient plusieurs qui souffraient pour le droit dans la même prison. Le fourgon, trop étroit, ne put les recevoir dans ses cloisons infâmes. Et l'on fit traverser tout Paris à ces femmes, bras dessus, bras dessous, avec des argousins, ainsi que des voleurs et que des assassins. Il est frappé de paroles bourrues s'ils arrivaient parfois que les passants des rues, surpris de voir mener ces femmes en troupeau, s'approchaient et mettaient la main à leur chapeau. L'argousin leur jetait des sourires obliques et les passants fuyaient disant « Fille publique !» et Pauline Roland disait « Courage, sœur !»
Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit ? Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre. Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est de rein, tout est de fer, jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Aux servitudes infâmes imposées à l'enfant. Rachitisme, travail dont le souffle étouffant. Défait ce qu'a fait Dieu, qui tue œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée. Et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain. D'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin, travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil,
progrès dont on demande, où va-t-il? Que veut-il? Qui brise la jeunesse en fleurs? Qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme? Que ce travail, haï des mers, soit maudit. Maudit comme le vice où l'on s'abattardit. Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit, au nom du travail même, au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux.
Gasti Belzalam à la carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Dona Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma signora? Sa mère était la vieille homograbine dans Tekara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant rouille, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César, empereur d'Allemagne, par le Licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois, la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
Voilà, donc on a retrouvé, enfin on est avec Victor Hugo à Guernesey. Puisque il vient d'arriver à Guernesey, hein, et donc il va trouver, il va réussir à acheter une maison, hein, qui s'appelle Hauteville House, hein, et là il va continuer toujours sa double vie d'ailleurs, puisque sa femme, enfin Adèle est toujours là, Juliette est toujours là, et il continue à produire énormément. Hein, il travaille toujours à l'écriture des Misérables. Il va refuser l'amnistie qui est proposé par Louis-Napoléon Bonaparte à tous les républicains. Il considère que tant que Louis-Napoléon Bonaparte est là, il n'a pas à revenir. Il joue un peu les absents. C'est une sorte de retraite à la De Gaulle, on pourrait dire.
Ah, il est fidèle à lui-même, quoi.
Il est fidèle à lui-même. Et puis, il va finir par faire paraître les Misérables. Et alors là, surprise, c'est quand même l'œuvre qu'il considère comme l'œuvre de sa vie. Eh bien, les Misérables vont être très très mal accueillis par la critique. Ça va être quand même un énorme succès populaire, mais enfin, dans la même période, il va se faire assassiner par absolument presque tout le monde littéraire, hein, y compris des gens comme Baudelaire, Flaubert. Il va y avoir, par exemple, je cite là, c'est dans le dossier du Monde, Lamartine va dire « C'est l'épopée de la canaille, la plus meurtrière, la plus terrible des passions à donner aux masses ». Par exemple, ou encore, on va le traiter du plus grand de tous les démagogues. Tout le monde va l'assassiner quasiment sur ce texte, mais c'est un énorme succès de librairie.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est le roman populaire qui n'avait pas bonne presse encore à l'époque, peut-être, je ne sais pas.
Pourtant, si, eh ben, y en a eu, puisque lui, il a écrit presque au départ ce roman en réaction au succès. Oui. Hein, de gens, parce qu'il y avait quand même, je ne sais pas, Georges Sand, par exemple, La Petite Fadette, enfin tous les romans qui mettent en scène des héros populaires et pauvres. Hein. Et lui, il fait la même chose, mais alors il a un succès absolument retentissant. Hein, et il va, quand même, dans toute cette période, il va se montrer aussi comme une sorte je ne sais pas comment dire, une sorte de philanthrope. Il organise chez lui, par exemple, des repas. Il accueille, je ne sais pas combien de fois par semaine, les enfants les plus démunis. C'est des véritables... Il reçoit jusqu'à 40 ou 50 enfants. On voit des photos, d'ailleurs, de Victor Hugo parmi ses enfants. Et puis, il y a quelque chose aussi qui va l'atteindre profondément, parce que il a auprès de lui à la fois ses petits-enfants, mais il a toujours sa fille Adèle. Et sa fille Adèle va s'éprendre d'un lieutenant anglais, qui s'appelle Albert Pinson, je crois. Mm-hmm. Et Hugo voit ça d'un très mauvais œil. Puis il voit surtout que sa fille part dans une espèce de dérive un petit peu, je ne sais pas comment dire, quoi, un peu mythomaniaque, quoi, quelque chose comme ça. Et il sent l'ombre de la folie sur sa fille. Et ça, c'est une chose qui l'atteint profondément.
Un nouveau drame familial après sa première fille, maintenant.
Voilà, il y en a
Adèle.
Beaucoup. Oui, il va perdre d'autres enfants. On va le voir plus tard. Il va perdre un de ses fils pendant la semaine sanglante de la Commune. Peut-être on va reprendre ce beau texte sur Pauline Roland, qui parle de la rébellion.
Et Pauline Roland disait : courage, sœur. L'océan aux bris rocs, aux sombres épaisseurs, les emporta. Durant la rude traversée, l'horizon était noir, la brise était glacée. Sans l'ami qui soutient la voix qui répond, elle tremblait. La nuit, il pleuvait sur le pont. Pas de lit pour dormir, pas d'abri sous l'orage, et Pauline Roland criait : mes sœurs, courage ! Et les durs matelots pleuraient en les voyant.
On atteignit l'Afrique, au rivage effrayant, les sables, les déserts, qu'un ciel d'airain calcine. Les rocs sans une source et sans une racine, l'Afrique, lieu d'horreur pour les plus résolus, terre au visage étrange où l'on ne se sent plus regardé par les yeux de la douce patrie. Et Pauline Roland, souriante et meurtrie, dit aux femmes en pleurs : courage, c'est ici. Et quand elle était seule, elle pleurait aussi. Ses trois enfants, loin d'elle, oh, quelle angoisse amère. Un jour, un des geôliers dit à la pauvre mère, dans la casbah de Bonne, au cachot étouffant : voulez-vous être libre et revoir vos enfants ? Demandez grâce au prince. Et cette femme forte dit : j'irai les revoir lorsque je serai morte. Alors, sur la martyre, humble cœur indompté, on épuisa la haine et la férocité.
Bagne d'Afrique, enfer qu'à son dériborole. Oh, la pitié sanglote et manque de parole. Une femme, une mère, un esprit. Ce fut là que, malade, accablé et seul, on l'exila. Le lit de camp, le froid et le chaud, la famine, le jour, l'affreux soleil et la nuit. La vermine, les verrous, le travail sans repos. Les affronts, rien ne plia son âme, elle disait : souffrons, souffrons comme Jésus, souffrons comme Socrate. Captive, on la traîna sur cette terre ingrate. Hélas, et quoiqu'un ciel torride l'écrasa, on la faisait marcher à pied comme un forçat.
La fièvre l'a rongée, sombre, pâle, amaigrie. Le soir, elle tombait sur la paille pourrie. Et de la France, au fer, murmurait le doux nom. On jeta cette femme au fond d'un cabanon. Le mal brisé, sa vie, et grandissait son âme. Grave, elle répétait : il est bon qu'une femme, dans cette servitude et cette lâcheté, meure pour la justice et pour la liberté. Voyant qu'elle râlait, sachant qu'ils rendront compte, les bourreaux eurent peur, ne pouvant avoir honte, et l'homme de décembre abrégea son exil. Puisque c'est pour mourir qu'elle rentre, dit-il.
Elle ne savait plus ce que l'on faisait d'elle. L'agonie à Lyon la saisit. Sa prunelle, comme la nuit se faisait quand baisse le flambeau, devint obscure et vague, et l'ombre du tombeau se leva lentement sur son visage blême. Son fils, pour recueillir à cette heure suprême, du moins son dernier souffle et son dernier regard, accourut. Pauvre mère, il arriva trop tard. Elle était morte. Morte à force de souffrance, morte sans avoir su qu'elle voyait la France et le doux ciel natal aux rayons réchauffants. Morte dans le délire en criant « Mes enfants !» On n'a même pas osé pleurer à ses obsèques. Elle dort sous la terre, et maintenant, évêque, debout, la mitre au front, dans l'ombre du Saint-Lieu, crachez vos tédum à la face de Dieu.
Tu as brûlé mes lettres, ma Juliette, mais tu n'as pas détruit mon amour. Il est entier et vivant dans mon cœur comme le premier jour. Ces lettres, quand tu les as détruites, je sais tout ce qu'il y avait de douleur, de générosité et d'amour dans ton âme. C'était tout mon cœur, c'était tout ce que j'avais jamais écrit de plus vrai et de plus profondément senti. C'était mes entrailles, c'était mon sang, c'était ma vie et ma pensée pendant 6 mois. C'était la trace de toi dans moi. Le passage, le sillon creusé bien avant de ton existence dans la mienne. Sur un mot de moi que tu as mal interprété et qui n'a jamais eu le sens injuste que je lui prêtais, tu as détruit tout cela. J'en ai plus d'une fois amèrement gémi. Mais je n'ai jamais accusé de l'avoir fait. Ma belle âme, mon ange, ma pauvre chair, Juliette, je te comprends et je t'aime. Je ne veux pas pourtant que cette trace de ta vie dans la mienne soit à toujours effacée. Je veux qu'elle reste, je veux qu'on la retrouve un jour, quand nous serons plus que cendres tous les deux, quand cette révélation ne pourra plus briser le cœur de personne. Je veux qu'on sache que je t'ai aimé, que je t'ai estimé, que j'ai baisé tes pieds et que j'ai eu le cœur plein de culte et d'adoration pour toi. C'est que depuis 8 mois que mes yeux pénètrent à chaque instant jusqu'au fond de ton âme. Je n'y ai encore rien surpris, rien de ce que tu penses, rien de ce que tu sens qui fut indigne de toi et de moi. J'ai déploré plus d'une fois les fatalités de ta vie. Mon pauvre ange méconnu, mais je te le dis dans la joie de mon cœur. Si jamais âme a été noble, pure, grande, généreuse, c'est la tienne. Si jamais cœur a été bon, simple, dévoué, c'est le tien. Si jamais amour a été complet, profond, tendre, brûlant, inépuisable, infini, c'est le mien. Je baisse ta belle âme sur ton beau front, Victor.
Zim Zizimi, Soudan d'Égypte, commandeur des croyants, Padisha qui dépasse en grandeur le César d'Allemagne et le Sultan d'Asie, maître que la splendeur énorme rassasie, songe.
C'est le moment de son festin du soir. Toute la table fume ainsi qu'un encensoir. Le banquet est dressé dans la plus haute crypte d'un grand palais bâti par les vieux rois d'Égypte.
L'homme sobre est souvent cruel, et d'ordinaire, l'économe de vin est prodigue de sang. Mais Zim est à la fois ivrogne et malfaisant, ce qui n'empêche pas qu'il ne soit plein de gloire. Il règne, il a soumis la vieille Afrique noire.
L'aigle, en l'apercevant, crie et fuit dans les roches. Les rajas de Mysore et d'Agra sont ses proches, ainsi qu'Omar qui dit « Grâce à moi, Dieu vaincra ». Son oncle est Ayradin, sultan de Bassora. Les grands cheiks du désert sont tous de sa famille. Le roi Doud est son frère et l'épée est sa fille.
Il a dompté Bagdad, Trébizonde et Mossoul que conquit le premier Duilius, ce consul qui marchait précédé de flûtes tibicines. Il a soumis Gophna, les forêts abyssines, l'Arabie où l'aurore a d'immenses rougeurs, et l'Edjaz où le soir les tremblants voyageurs, de la nuit autour d'eux sentant rôder les bêtes, allument de grands feux, tiennent leurs armes prêtes et se brûlent un doigt pour ne pas s'endormir.
Mascate et son imam, la Mecque et son émir, le Liban, le Caucase et l'Atlas font partie de l'ombre de son trône, ainsi que la Scythie. En Grèce, il fait lutter chrétien contre chrétien, les chiens contre les porcs contre les chiens. Tout le craint et sa tête est de loin saluée par le lama debout dans la sainte nuée.
Et son nom fait pâlir parmi les casse-burdards, le soufi devant qui flotte 7 étendards. Il règne. Et le morceau qu'il coupe de la terre s'agrandit chaque jour sous son noir cimetière. Il foule les cités, les achète, les vend, les dévore. À qui sont les hommes, Dieu vivant ? À lui, comme la paille est au bœuf dans l'étable.
Cependant, il s'ennuie. Il est seul à sa table, le trône ne pouvant pas avoir de conviés. Grandeur, bonheur, les biens par la foule enviés, l'alcôve où l'on s'endort, le sceptre où l'on s'appuie, il a tout. C'est pourquoi ce tout-puissant s'ennuie. Ivre,
il est triste.
Il vient d'épuiser les plaisirs. Il a donné son pied à baiser au vizir. Sa musique a joué les fanfares connues. Des femmes ont dansé devant lui toutes nues. Il s'est fait adorer par un tas prosterné de cheikhs et d'oulémas décrépits, étonné que la barbe fût blanche, alors que l'âme est vile.
Il s'est fait amener des prisons de la ville deux voleurs qui se sont traînés à ses genoux, criant grâce, implorant l'homme maître de tous, agitant à leurs poings de pesantes ferrailles. Et curieux de voir s'échapper leurs entrailles, il leur a lentement lui-même ouvert le flanc.
Puis il a renvoyé ses esclaves, bâillant.
On l'a tué à coups de chasse-pot, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes Ducamp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Falès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fier temps à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
La commune n'est pas morte. Non seulement elle n'est pas morte, mais elle arrive en 1870.
En 1871, même la commune. Auparavant, il y a la défaite de Sedan.
Voilà.
Et c'est la défaite de Sedan qui va signer la mort de l'Empire et l'avènement de la Troisième République. Et à l'occasion de l'avènement de la Troisième République, en septembre 70, Victor Hugo décide de revenir en France.
Voilà, il revient. Il revient en même temps à la fois critiquant les excès des communards. Hein, je pense qu'il faut rappeler qu'on est ici dans le collège Louise Michel. Hein, on ne va pas refaire un cours d'histoire, mais j'espère que tous ceux qui sont ici, tous les collégiens, connaissent un peu le personnage de Louise Michel et quelle part importante elle a pris dans la commune. Donc, Victor Hugo va critiquer les excès des communards. Il est toujours opposé à la violence, mais quand la commune va être réprimée dans le sang, comme elle l'est par l'armée de Thiers, eh bien, il va prendre la défense des communards. Il a toujours défendu, d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il demandera l'amnistie pour les communards. Donc on a dit bon qu'il a publié Les Misérables. Il a aussi il a écrit La Légende des siècles, dont on vient de dire le texte Zim Zim Zimi. Il a également il continue d'écrire énormément. Il continue aussi à produire du théâtre quand il va revenir en France. Et il va, alors évidemment on n'a pas dit, mais il a un accueil absolument triomphal quand il revient en France. Il est accueilli par des centaines voire des milliers de gens qui l'attendent à son arrivée. Il écrit sur l'art d'être grand-père. Il continue toujours à tenir son rôle un peu de sage national.
Et un nouveau drame familial quand même sur encore dans sa vie fils Charles.
Au moment de la Commune.
Charles décède à 44 ans.
Alors je pense qu'il est tué. Je sais pas.
Exactement. Non, il meurt d'apoplexie.
Ah d'accord. Charles. Ok. Cet événement arrive, mais donc on peut dire qu'il est absolument accablé de drames familiaux, mais il continue. Il est un petit peu le vieux sage, et puis il va continuer à diriger des gens dans le théâtre. Alors peut-être c'est intéressant de dire que Victor Hugo pratiquait, vous avez dû en apprendre, et vous en avez soupé là de l'Alexandrin pour toute cette émission. On a appris énormément de vers en Alexandrin, mais il paraît que Hugo parlait aux comédiens quand il avait des critiques à leur faire, parce qu'il assistait aux répétitions de théâtre, et bien il leur parlait en Alexandrin. Il parlait ça comme il parlait un autre langage, quoi. Et je pense qu'il a, et ensuite, plus tard, enfin dans la dernière partie de sa vie, il y a toute une œuvre qui s'appelle Toute la lyre, dans lesquelles, d'ailleurs, on a entendu des choses qui venaient de ce recueil, par exemple, Quand ta main te fut venue, ça vient de la lyre. Les djinns qu'on entendra aussi tout à l'heure, ça vient de la lyre. C'est-à-dire une espèce d'exploration de toutes les possibilités de la versification française. Voilà, c'est lui qui dira, j'ai pris l'Alexandrin et je lui ai tordu le cou.
Et donc, au milieu des années 70, il va être réélu sénateur. Donc, il reprend, si je puis dire, le manche politique. Il reprend en tant que donc élu du peuple. Et puis, il va écrire son dernier roman en 1874, 93, parce que je crois que c'est aussi les exactions, la guerre civile en France qui ont, je crois, réactivé dans son imaginaire la terreur de la Révolution française. C'est-à-dire que par rapport à la Révolution française, il est à la fois admiratif, mais aussi il déteste la violence.
Il dit que toute sa génération, comme l'a dit un petit peu d'ailleurs le texte que lisait Patrick tout à l'heure, l'avenir arrivera-t-il, quoi. Il a toujours été marqué par l'usage de la violence. Alors à la fois, il dit les révolutions sont nécessaires, c'est une sorte de violence à laquelle on ne peut pas échapper, mais lui, profondément, il déteste cette violence, quoi. Et d'ailleurs, il sera toujours partagé, et c'est peut-être ça qui fait sa grandeur, d'ailleurs. Il sera toujours partagé entre la nécessité de cette chose et le refus de la violence.
Juliette meurt en 1883 et lui va mourir en 1885 et il aura des funérailles nationales qui vont durer plusieurs jours et il sera transféré ses cendres au Panthéon.
Voilà. Et comme on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, il demandera à être porté dans le corbillard des pauvres, qu'il n'y ait aucune oraison religieuse à son enterrement, et il dira « Je crois en Dieu ». Voilà les trois choses qu'il dit. Alors, il paraît, ça c'est l'article de Jean-François Kahn dans le dossier du Monde qui a été consacré à Victor Hugo, l'élu du peuple, que ces funérailles qui ont duré plusieurs jours furent une espèce d'orgie populaire absolument extraordinaire, tout le monde buvant, les bosquets se transformant en lieu de bagatelle. Voilà, et peut-être ça ne lui aurait pas déplu. En tout cas, on va écouter un extrait qui est interprété par tout un groupe là, des élèves de Nathalie, qui va nous dire les djinns.
Mur, ville et port, asile de mort, mer grise où brise la brise, tout dort. Dans la plaine est un bruit, c'est l'haleine de la nuit, elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit.
La voix plus haute semble un grelot. D'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence, sur un pied danse, au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit. C'est comme la cloche d'un couvent maudit. Comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit.
Dieu, la voix sépulcrale des djinns. Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe, et l'ombre de la rampe qui le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond. C'est les seins des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc.
Ils sont tout près, tenant fermée cette salle où nous les narguons. Quel bruit dehors, hideuses armées de vampires et de dragons. La poutre du toit décelé ploie ainsi qu'une herbe mouillée. La vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds. Cris de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure. L'horrible essaim poussé par l'Aquillon, sans doute au ciel s'abat sur ma demeure. Le mur fléchit sous le noir bâtillon. La maison crie et chancelle penchée. Et l'on dirait que du sol arraché. Ainsi qu'ils chassent une feuille séchée, le vent roule avec leur tourbillon.
Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. Fais que sur ces portes fidèles meure leur souffle d'étincelle et qu'en vain l'ongle de leurs ailes grince et crie à ces vitres noires. Ils sont passés, leur cohorte s'envole et fuit et leurs pieds cessent de battre ma porte de leurs coups multipliés. L'air est plein d'un bruit de chaînes et dans les forêts prochaines frissonnent tous les grands chênes sous leur vol de peupliers.
De leurs ailes lointaines, le battement décroît. Si confus dans les plaines, si faible que l'on croit, ouïr la sauterelle, crier d'une voix grêle, ou pétiller la grêle, sur le plomb d'un vieux toit. D'étranges syllabes nous viennent encore, ainsi des arabes quand sonne le cor. Un chant sur la grève, par instant s'élève, et l'enfant qui rêve fait des rêves d'or.
Les djinns funèbres, fils du trépas, dans les ténèbres, pressent leurs pas. Leur essaim gronde, ainsi profonde, murmure une onde qu'on ne voit pas. Le bruit vague qui s'endort, c'est la vague. Sur le bord, c'est la plainte. Éteinte d'une plainte, c'est un mort.
On doute, la nuit, j'écoute, tout fuit, tout passe, l'espace efface le bruit.
Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que nos tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par les deuils et par les années, et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre entraînée comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Maintenant que je dis « un jour nous triomphons », le lendemain tout est mensonge. Je suis triste. Et je marche au bord des flots profonds courbés comme celui qui songe. J'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ceux qui parlent à ceux qui murmurent. Et je reste parfois couché sans me lever sur l'herbe rare de la dune, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. Elle monte. Elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre. Et nous nous regardons tous les deux, fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Où donc s'en sont allés mes jours évanouis? Est-il quelqu'un qui me connaisse? Ai-je encore quelque chose en mes yeux éblouis de la clarté de ma jeunesse? Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais? Au-dedans de moi le soir tombe, ô terre, dont la brume efface les sommets. Suis-je le spectre et toi la tombe? Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène, et que je te sens froide en te touchant, ô mort, noir verrou de la porte humaine. Et je pense, écoutant gémir le vent amer et l'onde aux plis infranchissables, l'été rit, et l'on voit sur le bord de la mer fleurir le chardon bleu des sables. Voilà, ainsi se termine cette deuxième émission consacrée à Victor Hugo l'exilé, qui a été enregistrée au collège Louise Michel à Ganges avec tous les élèves de la classe de Madame Nathalie Cuchard-Bouvier. Quatrième, j'ai bien dit, hein. Merci. On va les applaudir très fort quand même parce que c'est un boulot formidable. Merci pour eux. Merci. Je vais les citer rapidement. Je vais donner leurs noms. Lola, Chloé, Alexandre et Thomas, Jody, Areski, Théophile, Jeanne, Chloé. Il y a plusieurs Chloé. Il y a trois Chloé. Je ne dirai pas. On n'a pas le temps de dire tous les noms de famille. Anaïs, Margot, Charles, Aurélien, Benjamin, Salomé, Sheina qui n'est pas là mais qui a aussi travaillé à la préparation, Tom, Quentin, Patrick, Marinette et Athéna, je crois. Je dois oublier encore quelqu'un. Oui, Silouane et Emen. Voilà, tout le monde y est. Merci à la médiathèque départementale de l'Hérault qui nous a aidés dans cette opération. Merci à tous les gens aussi du collège qui nous ont aidés. Enfin, il y a plein de gens qui ont participé de façon très sympathique à mettre du chauffage, à couper les sonneries.
Il y a même Maëva et Johanna.
Et Maëva et Johanna qu'on avait oubliés. Voilà. On va citer aussi les musiciens de cette deuxième émission. Tom Waits, également Brassens évidemment qui chantait Gesti Belza. La semaine sanglante était chantée par Marc Augeret, cette chanson de la commune. Il y avait également Paco de Luciac dont la musique accompagnait le long texte de Pauline Roland et Anouar Brahem ainsi qu'une danse de Shostakovich qu'on pouvait entendre derrière les djinns. Merci à tous. La BIP intervient dans tous vos lieux de travail, vos lieux de loisirs, vos lieux de paresse. Vous pouvez l'inviter à faire des opérations semblables, également à venir dire de la poésie parce que nous estimons qu'il n'est de bonne poésie que dite. Voilà. Merci à tous ces élèves qui ont rendu vivante la parole de Victor Hugo.
Et merci à Tom.
Merci à Tom qui est toujours fidèle à la technique et qui fait des prodiges.